franceinter.fr. Les grands jardins publics, mon cher Alain Baraton, sont souvent gérés par des administrations et on ne le sait pas toujours.
Eh bien oui, comme les communes, les départements, les régions ou l'État et les responsables de ces jardins sont tenus de procéder à des appels d'offres et de respecter les règles des marchés publics. Il n'en fut pas toujours ainsi.
Et vous avez un exemple précis ?
Le jardin botanique de Nantes. Il a connu bien des déboires et si sa gestion aujourd'hui est irréprochable, il n'en fut pas toujours ainsi. En 1820, Louis XVIII attribue le jardin à la ville de Nantes, le département n'ayant pas su l'entretenir correctement. Deux ans plus tard, en 1822, la direction du site est proposée à Antoine Noisette, un paysagiste parisien. Le poste est intéressant, bien payé, et notre homme est logé. Mieux encore, il lui est accordé un privilège, celui de vendre à son profit les plantes en surnombre.
Et les problèmes ne tardent pas.
Vous vous en doutez, Antoine Noisette préfère gérer son portefeuille plutôt que le jardin dont il a la charge. Il faut attendre sept longues années avant que le parc ne soit ouvert au public et seulement en semaine. Il reste clos les dimanches et jours fériés. Les Nantais, on les comprend, sont fous de rage.
Et ce monsieur Noisette a été débarqué, remercié à un moment donné ?
En 1835, mais avant de partir, il a eu le temps de recruter en qualité de jardinier en chef Dominique, son fils. Fort heureusement, en 1836, Jean-Marie Écorchard est nommé titulaire de la chaire de botanique. Cet homme est consterné par l'entretien pitoyable du jardin et affirme qu'il s'agit davantage d'une pépinière que d'un établissement scientifique. Ses relations avec le jardinier en chef sont complexes et il accuse celui-ci de s'enrichir au détriment du domaine. Il parvient à s'en débarrasser en 1839. L'année suivante, Jean-Marie Écorchard est enfin nommé directeur.
Et là, c'est comme la sculpture de votre corps dont vous parliez tout à l'heure, les travaux d'embellissement démarrent.
Oui, sous son autorité et de nombreuses plantes sont donc achetées chez les pépiniéristes locaux. Et parmi les pépiniéristes locaux, un homme qui s'est spécialisé dans cette activité, Antoine Noisette. Il est là, il est revenu par la petite porte.
Oui.
Et là, il va encore gagner beaucoup d'argent.
Voulez-vous qu'on passe aux questions des auditeurs ?
Avec plaisir.
Vous avez encore des choses à nous dire sur Monsieur Noisette.
Être jardinier s'appelait Noisette.
Oui, c'est joli, c'est vrai. C'est les écureuils qui aiment bien les noisettes,
oui.
Alain Beaugrain-Dubourg, c'est ça ?
Bien sûr.
Ils les mangent.
Et certains jardiniers.
Quand et comment fait-on pour faire germer des pépins de citron bergamote ? Vous demande Pascal.
Oh, c'est joli, les citrons bergamote. On l'appelle en latin quand on fait les choses, sérieusement, le citrus bergamia. Donc c'est un citron tout simplement qui permet d'avoir la bergamote. On l'appelle également bergamote de Tunisie. Il suffit tout simplement de mettre son petit pépin dans une terre de bruyère, parce que le petit truc, c'est la terre de bruyère. On surface légèrement, plein soleil, plein pot, on arrose, et puis on attend tout simplement. Mais il faut savoir que la plante déteste, en hiver, avoir trop chaud. On s'imagine souvent que les plantes exotiques aiment bien, en hiver, j'allais dire, transpirer. Les plantes transpirent, il faut le savoir aussi.
C'est vrai ?
Ah, mais bien sûr, la plante respire et transpire. La transpiration, c'est le phénomène d'évacuation par les feuilles de l'eau en surquantité dans les tissus de la plante. Mais ça, c'est un problème botanique, un jour nous en reparlerons.
En tout cas, le thé à la bergamote, c'est drôlement bon, hein, François Régis.
Et donc c'est très facile à faire. Simplement, ce que les gens ignorent complètement, c'est que la terre qui convient aux pépins du citron bergamote est de la terre de bruyère.
Louis n'a pas taillé ses rosiers, ils sont devenus gênants. Comment peut-il les réduire sans risquer de les tuer ?
Alors, ce n'est pas très grave. Je le disais encore il y a peu de temps. Combien de fois avons-nous observé dans des maisons abandonnées, dans des jardins, des rosiers qui n'avaient pas vu l'ombre d'un jardinier depuis 15, 20, 30 ans ? Ils étaient couverts de fleurs. Je ne cesse de dire que la taille telle qu'elle est enseignée ne sert à rien. Je rappelle qu'on nous apprend dans les manuels scolaires, dans les ouvrages botaniques, dans les revues horticoles, que le rosier se taillerait à l'automne à deux ou trois yeux, la dernière pointe, l'extrémité taillée en biseau, etc. Tout ça est du pipeau complet. Vous taillez vos rosiers de la façon suivante. Au printemps, vous prenez le tailleur électrique si vous l'avez, vous ratiboisez...
Faire gaffe avec les tailleurs électriques, hein. Attention.
Je parle
non,
bien
c'est
de
dangereux,
tailler.
C'est absolument dangereux.
Il faut quand même savoir que les outils de jardin sont responsables à eux seuls de 40% des amputations aujourd'hui. Donc oui, vous avez raison, tondeuse, tronçonneuse, tailleur, c'est à réserver aux personnes adultes et qui savent vraiment les utiliser. Donc attention, tout comme également, j'en profite, cette folie qui consiste avec ces engins électriques à tailler les haies au printemps. Avant de tailler une haie au printemps, on vérifie qu'il n'y a pas de petits nids à l'intérieur.
Voilà,
très voilà. Donc à faire très
le
attention.
Voilà exactement, était signé Alain Beaugrain-Dubourg.
Donc pour le rosier, en règle norme générale, un rosier se taille, vous réduisez les deux tiers et ça suffira amplement. Là, ce rosier, il a grandi, il est devenu un joli pépère. Le tailler trop court va condamner la plante inexorablement. Donc on y touchera très 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 peu. L'idéal, c'est vraiment de couper simplement les branches gênantes, mal disposées, celles qui sont endommagées, et puis je dirais eh bien, de regarder au fur et à mesure, dans les années qui viennent, comment faire pour le réduire, mais surtout ne pas le réduire trop brutalement.
Mon terrain est très argileux, nous dit Fabienne, j'aimerais y faire pousser des framboisiers, qu'en pensez-vous ?
Bah, les framboisiers n'aiment pas tellement les terres trop humides. Le problème, voyez-vous, de la terre argileuse, c'est qu'en hiver, eh bien, elle retient l'eau et quand il gèle, les dégâts sont considérables. Et en été, eh bien, quand il y a un problème d'arrosage, vous remarquerez d'ailleurs, on commence à avoir de sérieux problèmes d'arrosage. Tout comme également, il faudra qu'on en parle, il y a du gel encore aujourd'hui qui fait dans les propriétés quantité de dégâts. Oui. Donc oui, on peut avoir des framboisiers dans les terres argileuses, mais attention, ne vous attendez pas à des récoltes magnifiques. Le framboisier n'aime guère.
Vous savez ce que c'est qu'une terre argileuse, Pierre Veil ?
Écoutez, en ce moment, les framboises sont excellentes. J'ai régulièrement...
Mais elles viennent d'où, les framboises que vous mangez en ce moment ?
Elles viennent des serres d'Espagne, super.
Oh non, Pierre, il ne faut pas faire ça.
On attend la saison.
Oui. Oh. Bon. Alors, il faudrait qu'un jour, Pierre visite les serres d'Espagne, comme François Agis vient de le préciser. Ce sont des usines à production. Beaucoup de plantes sont d'ailleurs produites hors sol.
Hors sol, avec des gens qu'on maltraite, enfin qui sont, oui, à qui on pique carrément leur carte d'identité quand ils arrivent pour y bosser. Oui. Il faut le savoir, Pierre.
Et puis, elles sont pleines d'intrants chimiques.
Mais qui vous dit que les framboises que j'achète actuellement viennent d'Espagne ?
Je vous les faites en pousser sur votre balcon.
Elles ne peuvent pas mûrir en ce moment en France.
Nous sommes en avril. Nous sommes en avril, c'est beaucoup trop tôt. Les premières framboises apparaîtront vraiment, je parle, dans le sud de la France, dans 3 semaines à moins, mais pas avant.
Vous êtes content d'être venu pour vous faire engueuler ?
Demandez conseil, Pierre
Veil.
Demandez.
Promis.
Peut-on déposer la mousse sur le tas de compost ? Voudrait savoir Julie.
Une réponse courte. Oui.
Oui. On peut ?
On peut.
Bon, d'accord. Alors, une question longue en revanche. Oui. Gaëtan, nous sommes exploitants d'un domaine de 20 hectares, vallonné et composé de prés et de bois. Certaines parcelles sont peu à peu, et malgré les coupes régulières, envahies par le sureau-yèble.
Alors,
il a essayé de l'arracher mécaniquement. Les rhizomes sont repartis. Comment pouvez-vous faire pour les éradiquer ou limiter leur prolifération ?
On l'appelle aussi l'herbe aux aveugles parce que la décoction des parties de sa ramure permettait, paraît-il, de fabriquer des substances pour permettre de lutter contre les problèmes oculaires et en particulier les ophtalmies. Eh bien, ces plantes qui sont envahissantes, comme toutes les plantes, ne peuvent pas être retirées autrement que mécaniquement, que par l'emploi de produits dits chimiques. Donc si on ne veut pas qu'une plante devienne vraiment gênante, on va retourner la terre, on coupe sitôt son apparition. Le sureau, j'ai connu des sureaux qui vivaient dans des haies, dans des ifs, pas moyen de s'en débarrasser. Même avec des produits, il repart. Donc, dans ce genre de situation, on tombe, on retourne, on tombe, on retourne, on tombe.
Bon, ça va, on ne va pas le dire jusqu'à 10h du matin non plus. Vous avez peut-être un conseil de lecture à nous donner ?
Fête des plantes, c'est Jardin en Seine, c'est aujourd'hui à Caudebec-en-Caux. Et dans quel département se trouve Caudebec-en-Caux ? Eh bien oui, bravo, bravo Pierre Veil.
C'est
bien en Seine-Maritime.
C'est en Seine-Maritime ?
Seine-Maritime.
Merci beaucoup à la marathon.